Le loup-garou.
C'était pendant la dernière lutte électorale de Richelieu entre Bruno et Morgan, dans une salle du comité du pot au beurre en bas de Sorel. Les cabaleurs révisaient les listes et faisaient des cours d'économie politique aux badauds qui prétendaient s'intéresser à leurs arguments pour attraper de temps en temps un petit coup de whisky blanc à la santé de M. Morgan. Dans une salle basse, remplie de fumée, assis sur des bancs grossiers autour d'une table de bois de sapin brut, 25 à 30 gaillards des alentours causaient politique sous la haute direction d'un étudiant en droit qui ponctifiait, flanqué de 4 ou 5 exemplaires du Hansard et des derniers livres bleus des ministères d'Ottawa. Le père Pierre-Riche Brindamour en était rendu au paroxysme d'un enthousiasme échevelé et criait comme un possédé. « Hourra pour M. Morgan et que le diable emporte tous les rouges de Sorel! C'est une bande de coureux de loups-garous! » Un éclat de rire formidable accueillit cette frasque du père Pierre-Riche, et comme on le savait bavard, à ses heures d'enthousiasme, on résolut de le faire causer. « Des coureux de loup-garou? Allons donc, M. Brindamour, est-ce que vous croyez encore à ces blagues-là dans le rang du pot au beurre? » C'est alors que le vieillard riposta en s'attaquant au manque de vertu et d'orthodoxie des avocats en général et de ceux de Montréal en particulier. « Ah ben oui, vous êtes tous pareils, vous autres, les avocats, et si je vous demandais seulement... ce que c'est qu'un loup-garou, vous seriez bien en peine de me le dire. Quand je dis que tous les rouges de Sorel courent le loup-garou, c'est une manière de parler, car vous devriez savoir qu'il faut avoir passé 7 ans sans aller à la confesse pour que le diable puisse s'emparer d'un homme et lui faire pousser du poil en dedans. « C'est vrai, » répondirent quelques farceurs qui se rangeaient avec le père Pierre-Riche contre l'avocat en herbe. Oui, tout ça, c'est très bien, riposta l'étudiant, dans le but de pousser Pierre-Riche à bout. Mais ça n'est pas une véritable histoire de loup-garou. En avez-vous jamais vu, vous, un loup-garou, M. Brindamour? C'est cela que je voudrais savoir. Eh bien, j'en ai une histoire, et je vais vous la conter, mais à une condition. Vous allez nous faire servir un gallon de whisky d'élection pour que nous buvions à la santé de M. Morgan, notre candidat. » La proposition fut agréée et le petit lait électoral fut versé à la ronde. Au sang d'un cran, l'enthousiasme déjà surchauffé de cet auditoire désintéressé. Et, après avoir constaté qu'il ne restait plus une goutte de liquide, au fond de la mesure d'un gallon qu'on avait placé sur une pile de littérature électorale, au beau milieu de la table, Pierre-Riche Brindamour prit la parole. Mon défunt père, dans son jeune temps, faisait la chasse avec les sauvages de Saint-François, dans le haut du Saint-Maurice et dans le pays de la Matawan. C'était un luron qui n'avait pas froid aux yeux. Et entre nous, je peux bien vous dire qu'il n'haïssait pas les sauvagesses. Le curé de la mission des Abénakis l'avait averti 2 ou 3 fois de bien prendre garde à lui, car les sauvages pourraient lui faire un mauvais parti s'ils l'attrapaient à rôder autour de leur cabane. Mais les coureurs des bois de ce temps-là ne craignaient pas grand-chose, et, ma foi, vous autres, les gars de l'Ureau de Montréal, vous savez bien qu'il faut que jeunesse se passe. Mon défunt père était donc parti pour aller faire la chasse aux castors, aux rats musqués et aux carcajou dans le haut du Saint-Maurice. Une fois rendu là, il avait campé avec les Abénakis, et sa cabane de sapinage était à peine couverte de neige qu'il avait déjà jeté l'œil sur une belle sauvagesse qui avait suivi son père à la chasse. C'était une belle fille, une belle, mais elle passait pour être sorcière dans la tribu et elle se faisait craindre de tous les chasseurs du camp qui n'osaient l'approcher. Mon défunt père, qui était un brave, se piqua au jeu et comme il parlait couramment sauvage, il commença à compter Fleurette à la sauvagesse. Le père de la belle faisait des absences de 2 ou 3 jours pour aller tendre ses pièges et ses attrapes. Et pendant ce temps-là, les choses allaient rondement. Il faut vous dire que la sauvagesse était une vlimeuse de païenne qui n'allait jamais à l'église de Saint-François, et on prétendait même qu'elle n'avait jamais été baptisée. Pas besoin de vous dire tout au long comment les choses se passèrent, mais mon défunt père finit par obtenir un rendez-vous, à quelques arpents du camp, sur le coup de minuit d'un dimanche au soir. Il trouva bien l'heure un peu singulière et le jour un peu suspect, mais quand on est amoureux, on passe par-dessus bien des choses. Il se rendit donc à l'endroit désigné peu avant l'heure, et il fumait tranquillement sa pipe pour prendre patience, lorsqu'il entendit du bruit dans la fardoche. Il s'imagina que c'était sa sauvagesse qui s'approchait, mais il changea bientôt d'idée en apercevant 2 yeux qui brillaient comme des fifollets et qui le fixaient d'une manière étrange. Il crut d'abord que c'était un chat sauvage ou un carcajou, et il eut juste le temps d'épauler son fusil, qu'il ne quittait jamais, et d'envoyer une balle entre les 2 yeux de l'animal qui s'avançait en rampant dans la neige et sous les broussailles. Mais il avait manqué son coup, et avant qu'il eût le temps de se garer, la bête était sur lui, dressée sur ses pattes de derrière et tâchant de l'entourer avec ses pattes de devant. C'était un loup, mais un loup immense, comme mon défunt père n'en avait jamais vu. Il sortit son couteau de chasse, et l'idée lui vint qu'il avait affaire à un loup-garou. Il savait que la seule manière de se débarrasser de ces maudites bêtes-là, c'était de leur tirer du sang en leur faisant une blessure dans le front en forme de croix. C'est ce qu'il tenta de faire, mais le loup-garou se défendait comme un damné qu'il était, et mon défunt père essaya vainement de lui plonger son couteau dans le corps, puisqu'il ne pouvait pas parvenir à le délivrer. Mais la pointe du couteau pliait chaque fois comme s'il eût frappé dans un côté de cuir à semelle. La lutte se prolongeait et devenait terrible et dangereuse. Le loup-garou déchirait les flancs de mon défunt père avec ses longues griffes lorsque celui-ci, d'un coup de son couteau, qui coupait comme un rasoir, réussit à lui enlever une patte de devant. La bête poussa un hurlement qui ressemblait au cri d'une femme qu'on égorge et disparut dans la forêt. Mon défunt père n'osa pas la poursuivre, mais il mit la patte dans son sac et rentra au camp pour panser ses blessures, qui, bien que douloureuses, ne présentaient cependant aucun danger. Le lendemain, lorsqu'il s'informa de la sauvagesse, il apprit qu'elle était partie, pendant la nuit, avec son père, et personne ne connaissait la route qu'ils avaient prise. Mais jugé de l'étonnement de mon défunt père, lorsqu'en fouillant dans son sac pour y chercher une patte de loup, il y trouva une main de sauvagesse coupée juste au-dessus du poignet. C'était tout bonnement la main de la coquine qui s'était transformée en loup-garou pour boire son sang et l'envoyer chez le diable sans lui donner seulement le temps de faire un acte de contrition. Mon père ne parla pas de la chose aux sauvages du camp, mais son premier soin, en descendant à Saint-François, le printemps suivant, fut de s'informer de la sauvagesse qui était revenue au village, prétendant avoir perdu la main droite dans un piège à carcajou. La scélérate était disparue et courait probablement le farfadet parmi les renégats de sa tribu. Voilà mon histoire, monsieur l'incrédule, termina le père Pierriche. Et je vous assure qu'elle est diablement plus vraie que tout ce que vous venez de nous raconter à propos de Lector Langevin, de M. Morgan et de petit Baptiste Guèvremont. Tâchez seulement de vous délivrer de Bruno, comme mon défunt père s'est délivré de la sauvagesse. Mais s'il faut en croire Baptiste Rouillard, qui cabale de l'autre côté, j'ai bien peur que les Rouges nous fassent tous courir le loup-garou le soir de l'élection. En attendant, prenons un autre coup à la santé de notre candidat et allons nous coucher, chacun chez nous. Fin de la légende du loup-garou, recueillie par Honoré Beaugrand.